Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour, vous écoutez Graphite sur 94.9 et sur graphite.net. Je suis Stéphane Poinsard, je suis en direct en studio avec 4 étudiants de l'Université de Technologie de Compiègne, Gilles, Rémi, Jordan et Aurore. On se retrouve pour des émissions autour du cours de WE01 de l'UTC. Pour l'UV Écrire sur le web, les étudiantes et étudiants viennent y présenter des résultats de recherche du semestre articulés autour de questions sociotechniques portant sur le web. En WE01, nous abordons les thèmes de l'histoire du web, du capitalisme de surveillance, des logiciels libres et du web décentralisé. On voit aussi des techniques et méthodes d'écriture et de lecture scientifique. On découvre le fonctionnement d'Internet. Vous aussi, vous pouvez découvrir ces cours sur le site librecours.net. Le thème abordé pour cet épisode est celui de la matérialité du numérique. Je vais passer la parole à Gilles pour nous en dire plus.
Exactement, Stéphane. Donc, moi et mon groupe, on fait des recherches sur la matérialité du numérique, qui fait référence donc à l'infrastructure physique essentielle au fonctionnement des technologies numériques, notamment les centres de données, les câbles sous-marins et les appareils électroniques, qui, bien que peu souvent perçus comme immatériels, nécessitent une consommation énergétique et des ressources matérielles considérables. Mais derrière cette révolution technologique se cache une réalité moins connue, celle d'un système énergivore et potentiellement destructeur pour l'environnement. Le numérique, souvent perçu comme immatériel, repose en réalité sur une infrastructure physique gigantesque. Chaque email, chaque recherche sur Internet, chaque vidéo en streaming passe par des centres de données qui fonctionnent en continu. Ces centres, connectés par des câbles sous-marins parcourant 1,3 million de kilomètres selon Ouest France, consomment entre 2 et 3% de l'électricité mondiale, encore largement issue par ailleurs des énergies fossiles selon une étude de l'ADEME. Ce thème est abordé par Fabrice Flipeau, par ailleurs professeur de philosophie et spécialiste des enjeux écologiques à l'Institut Mines Télécom BS dans son livre « La numérisation du monde en 2021 ». D'après lui, l'expansion de cette infrastructure a pris une ampleur sans précédent au début du XXIe siècle, notamment avec l'arrivée des smartphones qui ont transformé nos modes de vie. Cependant, cette transition vers le tout numérique n'a pas été un choix pleinement conscient des individus. Elle s'est imposée progressivement par des partis politiques publics et des dynamiques économiques, sans que l'impact écologique ne soit réellement pris en compte. Ce n'est qu'à partir de 2019 que l'on commence à interroger sérieusement les conséquences environnementales de cette transformation, toujours dans la numérisation du monde. Le numérique n'a pas seulement transformé nos foyers, il a profondément modifié les modes de production, notamment dans des secteurs clés comme les télécommunications, l'audiovisuel, la logistique et les logiciels. Des entreprises comme Amazon ont su tirer parti de cette révolution pour centraliser les flux logistiques mondiaux, devenant des acteurs incontournables, toujours d'après Fabrice Flipeau. Ainsi, selon lui, en 2022, près de 75% des entreprises utilisaient des technologies numériques pour optimiser leur fonctionnement, augmentant ainsi la consommation énergétique globale. Cela crée une contradiction flagrante, alors que les conférences internationales comme la COP21 prônent une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Il nous est alors dit dans la numérisation du monde que le numérique devient un moteur silencieux mais puissant de la crise climatique. Nous allons maintenant écouter un extrait de Fabrice Flipeau qui remet en question l'idée selon laquelle le numérique serait intrinsèquement propre à travers la dénumérisation le 22 décembre 2022.
Il y a pour beaucoup cette idée que le numérique est une bonne chose finalement pour la planète parce que je sais pas, la dématérialisation permettrait par exemple de réduire les distances, qu'on n'a plus à se déplacer loin pour des réunions qu'on peut faire par Zoom. Or cette idée assez répandue que numérique et écologie peuvent aller main dans la main est tout simplement fausse.
Tout à fait fausse, en effet. Donc pour prendre l'exemple que vous venez de prendre, effectivement, quand on peut avoir l'impression qu'avec une vidéoconférence, on évite de se déplacer,
voilà.
C'est vrai, mais depuis 150 ans, en fait, transport et communication sont plus complémentaires que substitutifs. À savoir que si on peut discuter facilement avec l'Australie, on va commencer à travailler avec l'Australie, et comme
ensuite,
on pourra pas...
Ben
oui,
on
ira en Australie, ben oui, bien sûr. Donc en fait, cette idée, elle est fausse, elle est évidemment véhiculée par les industriels qui veulent présenter le numérique comme étant une solution pour la planète, mais on peut regarder dans tous les exemples, ça ne marche pas. Et pour une raison assez simple, en fait, c'est que le numérique, c'est d'abord une révolution industrielle, c'est-à-dire un moyen de produire plus et consommer plus.
Ça nous pousse, en fait, dans notre volonté, dans notre désir consumériste, en fait.
C'est plus compliqué que ça. Hein. Quand Pascal Lamy, par exemple, l'ancien directeur de l'OMC, dit que la mondialisation économique repose sur deux innovations, Internet et le conteneur, je pense que ça dit bien ce que ça,
ça dit.
Et Amazon, c'est d'abord une entreprise de logistique. Et donc, en fait, le numérique, c'est d'abord un outil qui permet, comme je disais, de produire plus et de consommer plus. Et après, bah, c'est toutes les ficelles usuelles du marketing et de l'augmentation de la consommation.
On vient d'entendre Fabrice Philippot, professeur de philosophie à l'antenne de France Inter, le 22 décembre 2022 dans La Dénumérisation. En fait, Fabrice Philippot ici nous propose et nous invite à la sobriété numérique. L'idée est simple, réduire consciemment notre usage des technologies pour limiter leur impact écologique. Par exemple, il serait possible de privilégier des pratiques plus responsables, diminuer la qualité des vidéos en streaming, limiter l'achat d'appareils inutiles ou encore favoriser les appareils réparables et durables. Toujours d'après Fabrice Philippot dans la numérisation du monde en 2021. Cette sobriété ne vise ainsi pas à bannir la technologie, mais à en adopter un usage raisonné, en phase avec les objets climatiques et nos objectifs du même intitulé, donc climatique. Philippot propose donc également le développement de contre-réseaux, des infrastructures locales et décentralisées, conçues pour réduire la dépendance aux géants du numérique comme Google, Amazon ou Meta. L'objectif final est bien évidemment de retrouver une forme de souveraineté numérique tout en diminuant l'impact écologique.
Merci beaucoup. On va maintenant entendre Rémi.
Bonjour, je vais donc vous parler des terres rares et des différents problèmes qu'elles peuvent engendrer. Aujourd'hui, le développement des nouvelles technologies, notamment des technologies vertes, repose sur l'extraction des terres rares. La Chine, qui possède la majorité des réserves mondiales, domine leur exploitation. Cette situation crée une forte dépendance et des tensions géopolitiques, souvent qualifiées de « guerre des terres rares ». Comme le dit si bien Guillaume Pitron dans son livre, mais aussi Alice Cortana, qui est chargée de mission à la Fabrique écologique. C'est quoi les terres rares ? Les terres rares sont un groupe de 17 éléments chimiques, comme le lithium, le cobalt et le nickel. Les terres rares sont appelées rares, non pas parce qu'elles sont extrêmement rares dans la croûte terrestre, mais parce qu'elles sont rarement trouvées en concentration exploitable dans les mines. Ces éléments sont essentiels dans de nombreuses technologies modernes, notamment pour les éléments puissants, les batteries rechargeables, les écrans de smartphones et les moteurs électriques. Leur extraction et leur traitement peuvent être complètes et coûteux, ce qui les rend stratégiquement importants pour de nombreuses industries. En effet, les terres rares sont essentielles pour la production de technologies modernes, des smartphones aux infrastructures de production d'énergie en passant par les équipements militaires, et jouent un rôle crucial dans la transition énergétique, notamment avec les panneaux solaires et les éoliennes. La Chine contrôle 70% de la production mondiale, ce qui pousse les pays comme les États-Unis, l'Union européenne et le Japon à sécuriser leurs approvisionnements pour atteindre leurs objectifs climatiques. Cette compétition géopolitique a conduit à l'émergence d'une diplomatie des terres rares. Je vais donc vous laisser écouter un interview de Guillaume Pitron, journaliste spécialiste de la géopolitique des matières premières, réalisé par Combini en octobre 2018.
À mesure que nous changerons nos modèles énergétiques, eh bien nous déplacerons les problèmes. Dans la nature, il y a plusieurs types de métaux. Il y a les métaux abondants, qu'on connaît tous, le fer, l'aluminium, le zinc. Et puis il y a des métaux plus rares qui sont naturellement mélangés à ces métaux dans la croûte terrestre. Et ces métaux, ils sont présents dans cette croûte terrestre dans des proportions infimes. Et sans eux, le monde d'aujourd'hui, notre monde high-tech, ne pourrait pas exister. Sans métaux rares, il n'y a pas de green tech, donc pas de technologie verte, et pas de technologie numérique. Dans un téléphone, vous avez plein de métaux rares. Vous avez un métal rare, par exemple, qu'on appelle le néodyme, et qui se trouve dans l'aimant qui lui-même fait vibrer votre téléphone portable. De même qu'il y a de l'indium sur les téléphones portables, et plus précisément sur les écrans de vos téléphones portables. Ça veut dire que quand vous envoyez un SMS sur un écran tactile, eh bien c'est grâce à une poudre d'un métal rare qu'on appelle l'indium. Vous vous rappelez peut-être que vos téléphones portables, enfin ceux de vos parents à l'époque, faisaient la taille d'une brique. Sans métaux rares, eh bien nos téléphones aujourd'hui feraient la taille d'une brique. Ces métaux, ils sont rares et ils sont pas rares à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, on en trouve partout sur Terre. On pourrait ouvrir des centaines de mines en Afrique, au Groenland. Simplement, c'est surtout en Chine qu'on les trouve. La Chine a d'immenses réserves de métaux rares, mais surtout la Chine s'est arrogée la production dans les années 80. Elle a décidé, et de concert avec les Occidentaux, qu'elle serait le producteur prédominant de métaux rares pour le reste du monde. La Chine aujourd'hui est le grand maître des métaux rares.
C'était Guillaume Pitron, journaliste spécialiste de la géopolitique des matières premières, dans un interview réalisé par Combini. L'extraction des terres rares a des impacts environnementaux significatifs, tels que la destruction des paysages, la contamination des sols et des eaux et des émissions de CO2 très importantes. Grâce à l'article de Camille Péchel, publié sur Crumsol Globe en 2018, on peut voir que les activités affectent également les populations locales, comme à Batu, en Chine, où la pollution liée à l'exploitation minière a entraîné des taux de cancer largement plus élevés que la moyenne du pays. Les conditions de travail dans les mines sont souvent dangereuses, allant à l'encontre des objectifs de développement durable et ainsi des développements sociaux. La France a pris des mesures pour réduire sa dépendance aux terres rares importées de Chine. En 2010, le gouvernement a lancé le plan d'action métaux stratégiques et a créé le COMES en 2011. Des projets de recherche comme le laboratoire d'excellence Ressources 21 et des initiatives industrielles comme celle de la start-up MAG RE Ressources visent à développer des techniques d'extraction plus respectueuses de l'environnement. La France cherche également à relocaliser l'exploitation minière et à développer le recyclage des terres rares. Des partenariats avec des pays africains comme le Maroc et l'Algérie sont en cours pour sécuriser les approvisionnements. Le projet CARE-MAG, mis en place en 2024, vise à recycler les aimants permanents pour produire des oxydes de terres rares et en faire des aimants neufs. En conclusion, la transition écologique crée des tensions autour des terres rares, avec une demande qui pourrait être multipliée par 10 d'ici 2050. Bien que les minerais soient essentiels, leur extraction et leur utilisation posent des défis environnementaux et sociaux importants. Les transitions écologiques nécessitent des solutions innovantes et durables pour réduire la dépendance aux terres rares et minimiser les impacts négatifs de l'exploitation des terres rares.
Merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer la parole à Jordan.
Bonjour. Alors, comme Rémi l'a évoqué, les terres rares sont essentielles dans notre société avec l'essor des technologies. Cependant, leurs extractions entraînent des tensions géopolitiques et a des impacts environnementaux et sociaux. Je vais vous parler du cas de la République démocratique du Congo, pays marqué par des conflits armés, dus notamment aux mines de cobalt. Nous allons nous intéresser à un article de l'UE datant de novembre 2022 qui aborde le déplacement forcé de populations à cause de cette instabilité. Ces tensions sont causées par la présence de groupes armés tels que le M23, que j'aborderai plus en détail par la suite, et par l'extraction de ces précieux minerais. Tout d'abord, l'UE déplore la situation humanitaire catastrophique à l'est de la RDC à cause notamment du déplacement forcé de millions de personnes. Elle souligne aussi de nombreuses violations aux droits de l'homme, surtout à l'encontre des femmes et des enfants comme des violences sexuelles par exemple. Le Parlement européen souhaite une augmentation du soutien international et humanitaire envers ce pays et un renforcement des sanctions à l'encontre des responsables de ces atrocités. En effet, la République démocratique du Congo traverse une crise humanitaire complexe, marquée par des violences inouïes malgré la fin de la guerre civile en 2003. D'après plusieurs articles, notamment celui sur le site The United Nations Refugee Agency, la recrudescence de ces violences aurait entraîné le déplacement de plus de 6,4 millions de personnes dans des régions de la RDC. Cette situation alarmante pousse les habitants à fuir leur foyer, aggravant ainsi la destruction de millions de vies. Le mouvement du 23 mars, M23, est un groupe armé soutenu par le Rwanda. Ce groupe rebelle est actif en République démocratique du Congo et a récemment repris ses affrontements contre l'armée congolaise. Composé principalement d'anciens soldats de l'armée congolaise, le M23 regroupe aussi en grande partie des membres de la minorité Tutsi qui accusent le gouvernement congolais de les marginaliser. La situation critique est exacerbée par des tensions entre la RDC et le Rwanda, chaque pays s'accusant mutuellement d'ingérence. Bien que des pourparlers aient été initiés en novembre 2022 pour tenter d'instaurer un cessez-le-feu, aucun progrès majeur n'a concrètement été réalisé, selon Judith Renoult, dans un article publié en août 2024 sur le site Le Monde. Aucun des partis ne semble prêt à favoriser le dialogue, ce qui complique davantage la situation. En outre, les groupes armés de la région financent principalement leurs activités par la contrebande de minerais rares. L'UE souhaite donc empêcher ces trafics afin de limiter leur fulgurante expansion. Un rapport de l'organisation Human Rights Watch souligne la complicité de certaines autorités rwandaises qui apporteraient un soutien militaire au M23. Cette association a interrogé 190 personnes pour étudier les violations commises par le groupe armé. Le conflit a déjà causé le déplacement de plus de 200 000 civils et soulève des préoccupations quant aux violations du droit international humanitaire. Human Rights Watch appelle à des sanctions contre les responsables du M23. En effet, des témoignages révèlent que des opérations militaires sont coordonnées par le M23. De plus, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes subissent des menaces et des intimidations. En effet, le M23 a pris le contrôle de médias locaux pour étouffer les différentes critiques. Après avoir évoqué les tensions géopolitiques, il est également essentiel de considérer le coût humain engendré par ces exploitations minières. En RDC et dans la plupart des mines de cobalt dans le monde, les conditions de travail sont inhumaines. Ces mines artisanales, où des milliers d'hommes, de femmes et même des enfants travaillent chaque jour, sont souvent des lieux de souffrance et d'exploitation. Sans équipement de protection, dans des galeries instables et dangereuses, ces mineurs risquent leur vie pour extraire les minerais qui alimentent l'économie mondiale. Leur labeur, sous-payé et souvent forcé, illustre tragiquement la phrase de Joseph Wrewinski : là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Vous pouvez par exemple regarder le reportage nommé « Les forçats du cobalt » issu de TF1 Info et diffusé en novembre 2023, abordant la situation précaire des travailleurs dans les mines du Congo. Ce reportage montre l'atrocité vécue par les mineurs de cobalt en RDC. Ce pays ne peut plus être réduit à un simple fournisseur de ressources pour le reste du monde. Derrière chaque gramme de cobalt ou de coltan se cache une vie humaine souvent brisée. Soutenir un modèle plus juste et durable n'est pas seulement une question économique ou politique, c'est une exigence morale envers ceux qui souffrent dans l'ombre de notre confort moderne et qui demandent de plus en plus de technologies.
Merci beaucoup. Et donc pour terminer, on va écouter Aurore.
Un triste record. En 2022, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produits à travers le monde. Certains envoyés illégalement dans d'autres pays. Vous avez bien entendu, 62 millions de tonnes. Et ce chiffre ne cesse de croître. Selon le dernier rapport The Global E-Waste Monitor 2024, fait par l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, UNITAR, et l'International Telecommunication Union, ITU, publié le 20 mars dernier, cette montagne de déchets pourrait atteindre 82 millions de tonnes d'ici 2030, soit une augmentation de 32%, ce qui est encore plus inquiétant. Seulement 22,3% de cette masse a été collectée et recyclée de manière appropriée. Le recyclage est une manière de ne pas disperser les déchets électroniques dans la nature, ce qui cause des problèmes sanitaires et écologiques. Il semble permettre en plus de répondre à la question d'approvisionnement de terres rares. Depuis 2010, le volume de déchets électroniques a augmenté 5 fois plus vite que leur taux de recyclage. Alors, où sommes-nous réellement? Pourquoi un pourcentage si bas? Pourquoi ne recyclons-nous pas davantage? Regardons ceci de plus près. Je cite « Le problème, c'est l'usage que l'on fait de ce métal dans nos appareils. Tout est très miniaturisé dans nos ordinateurs, téléphones ou tablettes, ce qui rend la chose peu recyclable. » Ceci est expliqué à TF1 Info par Béla Lotto, fondatrice et présidente du Point de Mire, maison de l'informatique plus responsable, dans un article publié le 20 mars 2024 par Annick Berger, intitulé « Des millions de tonnes gaspillées, pourquoi recycle-t-on si mal les déchets électroniques ?» Prenons un exemple concret, nos smartphones. Aujourd'hui, on trouve plus de 70 matériaux différents dans un smartphone, comme le lithium, le néodyme, l'aluminium ou encore le cuivre. Ces matériaux sont présents en petites quantités et leur alliage, parfois complexe, rend nombre d'entre eux difficiles à recycler, précise l'ADEME. Ces éléments sont répartis dans diverses pièces miniaturisées, ce qui les rend difficiles à extraire. De plus, chaque fabricant a ses propres méthodes de conception. Les alliages, les designs, tout change d'une marque à une autre, voire d'un modèle à un autre. Cela pose un problème majeur pour les usines de recyclage. Imaginez, vous mettez en place une technologie pour démonter un certain type d'appareil, et soudain, un autre design arrive, incompatible avec votre processus. Résultat, les infrastructures deviennent obsolètes avant même d'avoir pleinement servi. Bella Lotto l'explique bien, je cite, « Le problème du recyclage, c'est aussi un problème de standardisation. » Sans homogénéisation, le recyclage à grande échelle reste un casse-tête technique et économique. Et pourtant, ce n'est pas faute d'essayer. Des initiatives existent, comme la marque néerlandaise Fairphone, qui produit des smartphones conçus pour être facilement réparés et recyclés. Les composants sont modulaires, ce qui simplifie leur démontage. Cependant, le recyclage n'est pas la solution définitive au problème de consommation de ressources. Écoutons maintenant un extrait de la conférence « Comprendre et agir » de Françoise Berthou, donnée le 15 novembre 2018 à l'INRIA Grenoble.
Alors, l'autre idée reçue qu'on voit souvent, mais en fait, il suffit d'améliorer le taux de recyclage de nos équipements. Aujourd'hui, vous avez vu, on est à quelques pourcents si on prend toute la chaîne, hein. Imaginons qu'on arrive à 80%, ce qui, notez-le bien, représente un effort colossal. Parce qu'il faut collecter et il faut être capable de recycler. Eh bien, ce schéma de François Gross, qui a publié un article dans Futurib, qui est très intéressant, que je vous invite à lire, il nous montre, et c'est juste du calcul tout simple, qu'en fait, si on passe du taux de recyclage de 0% à 80%, quand la demande du métal continue d'être exponentielle, ce qui est le cas par exemple du cuivre, comme je vous ai montré, bah dans ce cas-là, on ne fait que reculer le moment où on va rentrer dans le mur, où on va être au bout des réserves. Ça parce que la demande continue d'être exponentielle.
Ceci était Françoise Berthou, ingénieure de recherche en informatique au CNRS et directrice de EcoInfo. En effet, en recyclant, on réduit la demande en matières premières extraites de la nature, comme les métaux, le pétrole ou le bois. Cependant, cela ne crée pas de nouvelles ressources. Actuellement, le recyclage permet juste de retarder le problème de raréfaction de ressources, mais il ne le résout pas. D'autant plus que 22% seulement des déchets électroniques sont recyclés correctement aujourd'hui. Et ce chiffre pourrait tomber à 20% d'ici la fin de la décennie à cause de l'augmentation de la quantité de déchets et de production. Si nous ne faisons rien, la montagne des déchets électroniques continuera de croître, empoisonnant notre planète. Ces chiffres alarmants devraient être un cri de ralliement des entreprises et des consommateurs. Il s'agit de concevoir des produits éco-responsables ainsi que de consommer responsablement des produits. Favoriser la sobriété, la réparation et réutilisation et puis le recyclage.
Merci à tous. Alors on va prendre rapidement juste quelques questions. Donc un des points communs à vos interventions, c'est une forme d'appel à la sobriété numérique, le fait d'éviter de surconsommer le numérique. Avez-vous des idées de ce qui permettrait à la société de mieux s'organiser et de s'orienter vers cette sobriété numérique?
Alors bien évidemment, il existe plusieurs actions concrètes dont je vais présenter notamment trois qui me paraissent, selon moi, bien recevables et envisageables. Tout d'abord, prolonger donc forcément la durée de vie des appareils, ça j'ai pu l'évoquer déjà, mais c'est toujours un point important à rappeler. Donc réparer, entretenir, utiliser vos équipements aussi longtemps que possible, ce qui permettra d'éviter donc aussi d'en racheter toujours plus et de consommer toujours plus. Bien évidemment. Aussi, il y aurait optimisé ses usages numériques, comme réduire le streaming, donc limiter les emails inutiles, télécharger plutôt que de streamer en continu. Et enfin, recycler et bien évidemment acheter en reconditionné. Ça fait déjà pas mal de bruit ces derniers temps de préférer l'occasion au neuf. Et ben, je vous le répète, mais recycler vos anciens équipements dans les points de collecte et privilégier le matériel reconditionné permet de limiter notre impact écologique, en tout cas via le numérique.
Merci. Et une dernière question. Est-ce que vous auriez des idées comment les consommateurs peuvent s'informer quand ils doivent acheter un produit sur ces aspects de soutenabilité?
Il y a des labels qui sont mis en place par rapport à cette sobriété numérique, à cette soutenabilité qu'on veut. On demande aussi notamment aux producteurs de préciser en général que ce type de produit est reconditionné ou qu'elle répond à ses objectifs écologiques aussi, donc vis-à-vis de ce qui est utilisé pour les produire.
Merci. Et donc je vous remercie pour vos interventions. Donc c'était la matérialité numérique avec Gilles, Rémi, Jordan, Aurore et moi-même Stéphane. Cette émission est réalisée dans le cadre des cours WE1 pour l'UV à l'UTC et du projet LibreCours.net. Elle est diffusée en direct depuis le studio de la Radio Graphite le 18 décembre 2024. Et on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour un nouvel épisode intitulé « Intelligence artificielle et école ». Au revoir à tous. Et merci.
Au revoir.
Au revoir.